Bienvenue à vous toutes et tous pour le deuxième culte conférence du foyer de l'âme dans ce cycle consacré cette année au dialogue. Faut qu'on se parle. Et nous voici rassemblés ce matin dans notre commune humanité, chacune et chacun présent dans sa précieuse singularité. Que vous soyez ici dans le temple ou au loin relié par les réseaux sociaux, quel que soit votre chemin de vie, votre chemin de foi et la manière dont vous nommez votre Dieu, et même si vous dites que vous n'en avez pas, femmes et hommes de glaise et de souffle, d'ombre et de lumière, de doute et de confiance, de rires et de larmes, chacun, chacune est accueilli ici dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu. Laissons cette source couler au plus profond de nous et entre nous. Je vous invite à vous lever pour le temps de la louange. Éternel Dieu, tu viens par ta parole, par celle de Jésus le Christ, déchirer les ciels de nos illusions factices, ensemencer nos terres arides, aplanir nos chemins remplis d'ornières. Tu viens tracer routes nouvelles, déraciner de nos vies les germes de haine et dévoiler un monde fraternel. Tu viens poser ton éclat au fort de nos nuits, apporter la fraîcheur de l'aurore sur notre terre flétrie, conduire nos pas dans les sillons de l'amour et de la justice. Avec Jésus le Christ, mystérieux compagnon de toute vie humaine, tu viens par ta parole éclairer la terre. Sois loué, éternel Dieu. Amen. Et nous poursuivons la louange avec, comme indiqué dans les feuilles de culte que vous avez trouvées dans le recueil de cantiques, le psaume, le chant du psaume 36, « Ô Seigneur, ta fidélité », et nous allons chanter les strophes 1 et 2 de ce psaume 36. Prenez place. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies, dans quelle orientation il nous appelle à marcher, avec ce verset du livre du prophète Jérémie. Je connais, moi, les projets que je prépare à votre intention, déclaration de l'Éternel. Non pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et nous nous recueillons chacun, chacune et ensemble dans la prière de confession, celle où nous nous présentons humblement devant Dieu tel que nous sommes. Éternel, là où l'esprit n'éprouve pas de crainte, là où l'on porte la tête haute, mais sans orgueil et sans mépris pour autrui. Là où la connaissance est libre, où elle n'est pas retenue par des idéologies ou des dogmes. Là où le monde n'est pas brisé en mille morceaux par des murs de discrimination ou d'indifférence. Là où les mots viennent des profondeurs de la vérité et échappent aux mensonges ou à la manipulation. Là où le clair courant de la raison ne s'est pas perdu dans le sable stérile des habitudes, ni dans les pierres des peurs. Là où tu appelles l'être à grandir, à élargir son regard et sa pensée, à devenir présent dans ce lieu de vie et de liberté, nous voudrions habiter. Mais nous souffrons de ne pas y être. Et parfois même, nous participons au fait de ne pas y être. Mais par ta grâce, que cet espace de vie et de liberté soit déjà celui de notre âme, de notre être intérieur guéri, restauré, encouragé, pardonné par toi. Amen. Levons-nous pour entendre l'annonce du pardon. Amis, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image. Il transforme nos esprits encombrés et pétrifiés. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre, d'illuminer ce monde par sa clarté. Oui, Dieu désire la vie, notre vie, et il nous la donne sans mesure. Je vous invite à rendre grâce à Dieu pour son don, pour sa bonté, pour son pardon. Et nous le ferons en chantant au cantique 219. Dieu de lumière, esprit de vie, nous le chantons en entier. Asseyez-vous. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui, pour cette deuxième étape du cycle de culte conférences consacré au dialogue, Olivier Guivarch. Olivier et moi, nous nous connaissons depuis assez longtemps, à vrai dire, puisque Olivier a été étudiant en théologie, c'est là que nous nous étions rencontrés, et puis ensuite libraire, et puis ensuite tu t'es engagé dans le mouvement syndical à plusieurs niveaux avant d'être aujourd'hui secrétaire national d'une grande organisation syndicale. Et c'est donc pour cela que nous t'avons invité, et merci d'avoir accepté, surtout en cette période où il semble que le dialogue syndical soit extrêmement sollicité pour des enjeux importants. Et tu vas maintenant non pas nous parler des dialogues actuels, mais nous donner, nous ouvrir à ce point de vue particulier. Donc, à nous t'écoutons maintenant.
Ce que je vais vous dire ce matin n'engage pas l'organisation syndicale au sein de laquelle j'ai l'honneur d'exercer un mandat. Ce que je vais vous dire n'engage que moi, et je remercie Dominique Hernandez ainsi que la communauté du Foyer de l'âme pour son invitation qui m'offre l'occasion de vous parler du dialogue social avec mes mots, selon mon expérience et mon parcours personnel, dans un cadre assez inhabituel au dialogue social. En effet, permettez-moi d'insister, je tiens tout particulièrement à un syndicalisme laïque, indépendant à l'égard des institutions religieuses, ouvert à toutes et tous, sans discrimination, et dans le respect mutuel des convictions philosophiques, morales et religieuses, réunissant des femmes et des hommes libres et responsables, comme un syndicalisme autonome vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques. Alors, le dialogue social, un chemin de compromis. Mais pour faire quoi ? Ici et maintenant, il me semble pertinent de commencer par les prophètes. Vous voyez, on est vraiment dans un cadre très inhabituel pour le dialogue social. Je pense à Isaïe, Amos, Osée, Michée et Jérémie, qui a été cité tout à l'heure. Alors prenons Jérémie au chapitre 22, qui s'adresse au roi Joachim. « Malheur à celui qui bâtit sa maison au mépris de la justice et ses étages au mépris du droit, qui fait travailler les autres pour rien sans leur donner leur salaire. » Je vais me bâtir un palais grandiose avec de vastes étages, dis-tu. Tu y ouvres des fenêtres, tu en revêts les murs avec du bois de cèdre, tu le fais peindre en rouge vermillon. Veux-tu prouver que tu es roi en choisissant le bois de cèdre pour te distinguer? Ton père mangeait et buvait, comme tout le monde, et il pratiquait le droit et la justice. Et tout allait bien. Il faisait droit aux pauvres et malheureux et aux malheureux, et tout allait bien. N'est-ce pas cela, me connaître, dit l'Éternel. Mais toi, tu n'as des yeux et un cœur que pour ton profit, pour verser le sang de l'innocent et agir dans l'oppression et la violence. Est-ce que Jérémie n'est pas, d'une certaine manière, un petit peu syndicaliste ? Alors, non, je ne commettrai pas le raccourci selon lequel le courant prophétique serait le courant social, syndical de la religion, transposable dans notre société. C'est infiniment plus complexe, mais le christianisme social retiendra plus facilement les textes prophétiques critique envers les pouvoirs politiques et économiques, appelant au respect du droit et de la justice vis-à-vis des plus faibles, étrangers, etc. Les théologiens les plus sincères disent souvent, et là j'ai la voix de Laurent Gagnebin dans la tête, les théologiens disent souvent que nous avons tendance à créer notre propre canon dans le canon biblique, c'est-à-dire à privilégier les passages bibliques qui nous arrangent. Ainsi, j'apprécie tous ces prophètes qui interpellaient leurs contemporains au nom du droit et de la justice. Et Jérémie encore au chapitre 7, « Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, alors vous aurez la bénédiction. » Jérémie, qui jugeait les mauvais rois et encourageait le roi Josias à ordonner la réforme deutéronomiste, cette nouvelle alliance, le règne de la loi, selon la promesse de l'Éternel, « Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur, alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Accordez-moi ce matin cette brève référence au prophète Jérémie, certes, peut-être pas très rigoureuse sur le plan exégétique, mais qui me permet de donner le sens de notre sujet. Le dialogue social, le chemin du compromis, est un moyen essentiel de pratiquer le droit et la justice et de rejeter l'oppression et la violence. Et j'irai plus loin. Le dialogue social est un moyen essentiel pour la performance économique, pour le progrès social, collectif et individuel, et pour le respect de notre environnement. C'est vous dire l'importance de l'enjeu. En premier lieu, je lèverai quelques soupçons, des malentendus, quelques confusions à propos du dialogue social. Ensuite, je décrirai le dialogue social tel qu'il se vit, ici et maintenant. Et enfin, je conclurai par les enjeux d'avenir du dialogue social. Soyons réalistes, nous savons bien que dans notre pays, le dialogue social ne va pas de soi. On entend souvent les arguments de ceux qui le dénigrent et le soupçonnent de trahir la cause du droit et de la justice. La culture de lutte des classes est ancrée dans de nombreuses organisations et leur tient lieu de référence indépassable. Je considère même, avec Jean-Louis Malice, un syndicaliste, que cette culture est entretenue par deux camps extrêmes qui, sous des apparences de désaccord irréconciliables, jouent la même partition, le refus du dialogue social. Leur ennemi commun est le compromis, jugé toujours plus favorable pour l'autre. Leurs véritables adversaires sont ceux qui préfèrent la recherche de solutions négociées. Combien de fois entend-on « compromission » lorsqu'on se félicite d'un compromis ? Il faut dire que le mot en français est piégé, alors que l'étymologie latine est positive, « compromissum », « promesse mutuelle ». Utilisé comme adjectif ou verbe, c'est embarrassant. Ce représentant du personnel est compromis. Il s'est compromis. Utilisé comme nom commun, c'est synonyme d'une conciliation, d'un arrangement, d'une solution qui clôt un désaccord. Et, je l'ai dit, le jeu de mots compromis-compromission est facile et n'aide pas. Reconnaissons qu'il existe une lecture conflictuelle des rapports sociaux. Acceptons le pluralisme et donc la liberté d'une expression radicale des relations sociales. Et d'ailleurs, le vocabulaire militant dit beaucoup des présupposés, des convictions et des fondamentaux. Il est très suggestif d'entendre les uns parler de lutte, de victoire, et d'autres parler de conflit, d'accord et de désaccord. Reconnaissons qu'on trouve dans notre histoire sociale de nombreux exemples de luttes acharnées qui n'ont pas abouti à un compromis entre acteurs sociaux, mais qui ont abouti quand même, et dans ce cas, l'une des parties obtient une décision politique sous forme d'un acte juridique, une loi, un décret, par exemple. Je donne deux exemples concrets. Les congés payés et l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche, pour être très concret. Les congés payés sont nés en 1853 par un décret de Napoléon III et ils concernaient seulement les fonctionnaires. C'est en 1936 que le droit à des congés payés de 2 semaines est étendu à tous les salariés par la voie législative. Puis 3 semaines en 1956, 4 semaines en 1969 et 5 semaines en 1982. Soit dit en passant, en 1936 comme en 1969, la loi fait suite non seulement à des conflits de forte intensité, mais aussi à des accords entre les syndicats et le patronat. Je pense aux accords de Matignon de 1936. Le dialogue social ne nie pas les conflits, le rapport de force et les divers moyens possibles pour l'avoir de son côté. Et nous y reviendrons. Autre exemple, en 2014, après un intense lobbying des grandes enseignes du bricolage et de nombreux contentieux initiés par des syndicats, un décret est publié pour autoriser ce type de commerce de détail à ouvrir le dimanche, sans qu'il y ait eu, au préalable, un quelconque compromis social. Si je donne ce dernier exemple, c'est pour rappeler que le conflit et le rapport de force ne sont pas l'apanage des organisations de travailleurs. Pour ne prendre que les 30 dernières années et le niveau national interprofessionnel, les grands conflits sociaux ne manquent pas et ils s'expriment chez nous par des grèves et des manifestations sous forme de grands cortèges. 1995, 2003, 2010, 2016, 2018, 2019, 2023, on a l'impression que ça s'accélère, et j'en oublie sûrement. Parfois, le pouvoir politique renonce, parfois, il s'impose. Mais c'est plus compliqué à l'échelle des entreprises et des administrations. La conflictualité est en régression si on tient compte du nombre de journées individuellement non travaillées selon les statistiques officielles partagées au ministère du Travail. À nuancer si on tient compte d'indicateurs plus micro, refus d'heures supplémentaires, absence sans motif, conflits interpersonnels par exemple. Et d'ailleurs, les managers déclarent qu'ils passent 30% de leur temps à traiter des conflits. Sans parler d'une forme de désengagement constatée par des enquêtes de terrain. Un dernier malentendu, ou plutôt une confusion, le dialogue social, ce n'est pas les relations sociales. Les relations sociales regroupent l'ensemble des relations au sein de la communauté de travail. Les relations au travail ne sont pas égalitaires. le contrat de travail établit un lien de subordination avec une hiérarchie. Les relations professionnelles, elles, sont très diverses, infiniment variées, sous l'influence de notre culture, en tant que société française, de la culture de l'entreprise, parfois en décalage, des identités professionnelles, des métiers, des pratiques de management, selon également l'âge, la catégorie socio-professionnelle, la liste est sans fin. Les relations de gré à gré entre collègues et entre employeurs ou entre l'autorité et l'agent ne relèvent pas du dialogue social. À cette étape de notre chemin, ce matin, pour résumer, le conflit des logiques existe. Cette expression, le conflit des logiques, permet d'éviter un débat stérile sur la légitimité. L'employeur est-il légitime à diriger l'entreprise ? Le syndicat est-il légitime à défendre les salariés ? Oui aux deux questions. Chaque acteur du dialogue social dispose d'une légitimité et exerce des missions propres, avec des intérêts divergents. Il y a dialogue si chaque acteur reconnaît la légitimité et les missions de l'autre. Le dialogue social révèle le conflit des logiques. Il permet d'exprimer les désaccords et il cherche des solutions qui conduiront au compromis. Vivre ensemble, travailler ensemble, se mettre d'accord ensemble, trouver des intérêts communs. Voilà l'ambition d'un dialogue social qui veut aboutir à un compromis. Le dialogue social, c'est bien plus que la négociation collective. De façon formelle et informelle, le dialogue social inclut la concertation, la consultation, toutes les étapes de la négociation, l'évaluation, la communication, avec une grande diversité de pratiques au quotidien et de structures pour organiser tout ça. Enfin, le dialogue social, pour exister, nécessite la représentation. Je représente plus que moi-même, je suis investi d'un mandat, c'est un jeu de rôle social. Alors, à ce stade de la réflexion ce matin, je voudrais vous parler du dialogue social quand il se vit concrètement. Pour le dire en une phrase, et de façon un peu trop rapide, le dialogue social, ça marche quand on y croit. Heureusement, dans le monde des relations sociales, on trouve de nombreux croyants qui sont également pratiquants dans chacune des parties prenantes, patronales et syndicales. Un représentant patronal m'a fait cette réflexion un jour : rien ne vaut un accord négocié. Ça ne voulait pas dire qu'il était prêt à signer n'importe quoi, loin s'en faut. Et ça ne s'est pas toujours très bien passé. Mais sa préférence allait au compromis plutôt qu'au passage en force par le lobbying politique. Pour se mettre d'accord, il faut être deux. Or, souvent, dans notre contexte, il faut être le plus souvent plus nombreux que deux. Donc, c'est encore plus compliqué. Je vais passer en revue les différents niveaux de dialogue social que j'ai pu connaître, de manière à être le plus concret possible, en entreprise, en branche et au niveau interprofessionnel. Commençons par le dialogue social en entreprise. J'ai fait l'expérience personnelle de la construction d'un dialogue social à partir de quasiment rien. Tout était presque à inventer. Et c'était passionnant. C'est toujours une aventure collective, le dialogue social. Il faut créer une section syndicale, proposer l'adhésion, lancer des débats, écouter beaucoup, susciter des candidatures pour le comité social et économique, qu'on appelait comité d'entreprise autrefois, se répartir les responsabilités, faire campagne, s'informer, informer et se former. L'engagement prend tout son sens quand on prend la décision de représenter ses collègues et que ceux-ci accordent leur confiance. Et l'on découvre qu'il est indispensable de construire ce sur quoi repose un dialogue social de qualité, sincère, qui concourt à la performance de l'entreprise. C'est la confiance. Or, la confiance ne se décrète pas. Elle s'acquiert. Et elle s'acquiert par le contractuel et le relationnel. Les réunions du comité social et économique se préparent. L'ordre du jour est fixé conjointement entre secrétaire et président. Donc, il faut bien déminer le terrain avant les procédures d'information et de consultation. En tout cas, c'est ce que je conseille. Les négociations se préparent également selon, dans le meilleur des cas, un agenda social, lui-même négocié en amont. Toute négociation comporte des réunions bilatérales avec la direction, des réunions entre organisations syndicales, le tout pour mesurer les convergences et les divergences et, in fine, déterminer au fur et à mesure si un accord est possible. Il y a du off, des démonstrations de force, des réunions avec les collègues pour rendre compte, ce que j'appelle le service après-vente en cas d'accord ou de désaccord. Il faut du temps. Ce qu'on appelle le théâtre du dialogue social est à prendre au sérieux parce que c'est ainsi que la confiance se construit. Dès lors, je le répète, que la légitimité de chacune des parties n'est pas remise en cause. J'ai appris enfin qu'il fallait poser la question suivante pour que le dialogue social aboutisse à quelque chose de tangible. Quelles sont les motivations à exercer son rôle pour chacune des parties? Y répondre, c'est se donner les capacités de répondre aussi aux attentes. Et en entreprise, je vous laisse imaginer toutes les motivations possibles d'un délégué syndical, d'une déléguée syndicale et d'une personne représentant la direction. En résumé, je cite un extrait du préambule d'un accord récent dont je vous parlerai tout à l'heure. Il a été écrit tout récemment et il résume d'une certaine manière le propos. Et comme c'est un préambule d'un accord, il y a bien eu un compromis aussi sur ce texte. Au regard des nouveaux enjeux auxquels les entreprises et les salariés sont confrontés, le dialogue social permet d'apporter des solutions concrètes aux transformations de l'emploi, du travail et de son organisation. Par leur avis sur des sujets essentiels, tels que l'organisation du temps de travail, les politiques de rémunération, la formation, la santé et la sécurité des salariés, les élus représentants du personnel contribuent à la performance économique de l'entreprise, éclairée notamment par l'accès aux informations mises à disposition par l'employeur. Dans l'entreprise, les organisations représentatives de salariés et l'employeur ont également vocation à conclure des accords utiles à son développement et sa réussite sur différents thèmes. Salaire, participation, intéressement, épargne salariale, temps de travail, représentation du personnel, prévoyance, santé, etc. Il est à cet égard indispensable d'associer les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, à la mise en œuvre des politiques relatives à l'emploi et au travail des salariés. Fin de citation. Pour résumer, retenez que le dialogue social en entreprise est à la portée de toutes et tous, à condition d'y croire, de respecter ses interlocuteurs et leur légitimité à représenter plus qu'eux-mêmes. Concrètement, quelques exemples. L'installation d'un nouveau logiciel, l'organisation du travail pendant des travaux, ça c'est toujours très stressant, le télétravail, pour qu'il y ait des règles équitables et que ce ne soit pas du gré à gré en fonction de l'autorité qu'on pourrait avoir ou du pouvoir personnel qu'on pourrait avoir. L'équipement de sécurité des salariés, les besoins en effectif, le niveau de prise en charge de votre complémentaire santé, le règlement intérieur. Et je pourrais continuer parce que la liste est très longue. Tous les sujets qui ont un lien avec le travail, la vie dans l'entreprise, et on y passe beaucoup de temps, à tous les niveaux, et en impliquant toutes les composantes de l'entreprise. Je pense en particulier au management intermédiaire qui a besoin d'être sensibilisé au dialogue social et même d'être impliqué dans le dialogue social et formé au dialogue social, de manière à ce que toutes les composantes de l'entreprise intègrent le fait que le dialogue social produit du vivre ensemble. Et je renvoie par exemple aux travaux de Pierre-Olivier Monteil qui explique comment une éthique du management permet d'humaniser le travail et de faire en sorte que vivre ensemble et travailler ensemble produit de la joie, de la performance économique et du progrès social. Passons à la branche professionnelle. C'est un niveau de dialogue social très important, mais méconnu. Pour faire simple, les organisations syndicales et patronales représentatives dans une branche d'activité sont co-responsables de sa régulation socio-économique. C'est pourquoi on parle souvent de paritarisme. C'est sûrement un mot que vous avez entendu. Ces organisations négocient notamment une convention collective qui fixe le cadre social qui s'impose dans toutes les entreprises de la branche. Les salaires minimums, les congés pour événements familiaux, la classification des métiers, la protection sociale, complémentaire santé, prévoyance pour les risques lourds, les dispositions particulières en lien avec le secteur d'activité, comme par exemple la prise en compte des conditions météo pour modifier les horaires, ça existe, dans les parcs de loisirs par exemple, ou une prime en cas de coupure dans la journée, dans la restauration. La France se distingue dans la mesure où 90% des salariés sont couverts par une convention collective. 90%. Sans avoir besoin de se syndiquer, la plupart du temps, sans connaître l'activité paritaire que ça représente. Et ça représente beaucoup de temps et de travail. C'est grâce aux conventions collectives que les salariés des petites entreprises, dépourvus de représentants du personnel dans leur établissement, à leur travail, bénéficient malgré tout d'un cadre social amélioré par rapport au code du travail qui est la base commune, mais faible. Quand le dialogue social est de qualité, bien sûr, et ce qui est loin d'être le cas partout. En la matière, j'ai pu constater beaucoup de disparités et les causes sont multiples. L'actuel directeur général du travail avait produit un rapport il y a quelques années, jamais publié officiellement, mais on a pu y accéder, qui proposait des pistes d'amélioration. Mais pour le moment, c'est au point mort. Pour notre sujet, le dialogue social, retenez que le niveau des branches place les représentants syndicaux et patronaux dans une posture différente de celle occupée dans l'entreprise. Par exemple, l'effet sur la négociation est très visible. On négocie à froid. Puisqu'on négocie pour toute une branche d'activité comptant plusieurs centaines, voire des milliers d'entreprises. Les négociateurs se voient régulièrement, mais pas tous les jours, et sont parfois des professionnels de la négociation collective et du dialogue social. Quant aux forces en présence, sachez qu'il peut y avoir plusieurs organisations patronales représentatives concurrentes, ce qui ne simplifie en rien la stratégie des organisations syndicales. C'est tout autant compliqué d'avoir un interlocuteur ou plusieurs interlocuteurs patronaux. Il n'en demeure pas moins que les fondamentaux du dialogue social s'appliquent. Reconnaissance de la légitimité des intérêts de chaque partie, la confiance reposant sur du contractuel et du relationnel, le compromis traduit une convergence d'intérêts et répond aux attentes et aux motivations. Je passe au dialogue social interprofessionnel, qui induit une diversité d'activités si l'on élargit la définition. Concertation avec les pouvoirs publics, position ou déclaration commune entre organisations patronales et syndicales, échanges plus ou moins formels entre organisations et avec le personnel politique, auditions parlementaires, négociations d'accords nationaux interprofessionnels, j'y viendrai. Je ne vais pas vous faire la liste de toute cette activité. Les acteurs sont nombreux, les médias plus présents et le pouvoir politique s'en mêle. Mon mandat actuel m'oblige à une certaine réserve sur ce sujet. Je peux néanmoins partager avec vous plusieurs remarques. Premièrement, le dialogue social interprofessionnel ne consiste pas au quotidien à organiser des manifestations et à confectionner des pancartes et des banderoles. Je préfère le dire, mais vous le savez. Même au plus fort de la contestation de la réforme des retraites en 2023, puisque là, il y a eu beaucoup de banderoles, beaucoup de pancartes, beaucoup de cortèges, le dialogue social générait de l'activité. Par ailleurs, il en était de même dans les branches et les entreprises, parce que le monde ne s'est pas arrêté. Deuxièmement, le dialogue social interprofessionnel oblige à se poser la question de la place des corps intermédiaires dans notre pays et de l'articulation entre la démocratie politique et la démocratie sociale. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que, de mon point de vue, il n'y a pas lieu de remettre en cause leur légitimité et leur représentativité. Seuls les extrêmes agissent ainsi et, en contestant légitimité et représentativité, et au contraire, toute vraie démocratie libérale dans le monde comporte une société civile organisée. En revanche, je constate que la place qui est donnée au dialogue social varie trop souvent, tant du côté du personnel politique que des partenaires sociaux eux-mêmes. Pour le dire vite, et je ne dirai que ça, il est dommageable de favoriser le dialogue social seulement quand on manque de relais au gouvernement. Et je m'arrête là. Troisièmement, pour finir ce point sur un exemple concret, Sachez qu'un accord national interprofessionnel a été conclu récemment portant sur les salariés seniors, qu'on a appelé salariés expérimentés. Il est le fruit, oui, vous voyez, c'est ça les compromis aussi sur le vocabulaire. Il est le fruit d'un compromis entre les trois organisations patronales représentatives au niveau national et quatre organisations syndicales sur cinq. L'enjeu est élevé. Et il s'agit bien sûr que d'une première étape. Notre pays souffre en effet d'un taux d'emploi des seniors trop faible. En général, 20 points d'écart avec nos voisins les plus comparables. Et nous devons agir à la fois sur le maintien en emploi dans les meilleures conditions de travail, sur le recrutement et tout au long du parcours professionnel pour mieux anticiper la deuxième partie de carrière. Sans rentrer dans les détails, sachez que l'extrait du préambule que j'ai lu tout à l'heure provient justement de cet accord national interprofessionnel. Vous en entendrez parler à nouveau, je l'espère, dans les médias, dans les branches et en entreprise, lorsqu'une loi transposera les dispositions qui sont le fruit du dialogue social. La retraite progressive dès 60 ans, la négociation en branche et en entreprise sur le maintien en emploi, le recrutement, le travail des seniors, les entretiens mi-carrière et fin de carrière, et un contrat spécifique pour les demandeurs d'emploi de plus de 60 ans. Ainsi, c'est ça qu'il faut retenir, s'articulent la démocratie politique et la démocratie sociale, le législatif et le conventionnel, car pour exister, cet accord aura besoin d'une loi qui transpose. Et c'est là où le dialogue social produit de la norme. Je m'arrête là pour les exemples et j'en viens aux enjeux d'avenir du dialogue social. Je vais faire une liste des enjeux qui me semblent essentiels, sans entrer dans les détails, bien entendu, pour ensuite appeler une discussion à la fin de cet office. Premièrement, le renforcement d'une culture de dialogue social. C'est la question de la culture du compromis qui nécessite du travail, parce que ça ne se décrète pas. Et notre pays en a bien besoin. C'est une culture qui est nécessaire. Et ça passe par de la formation, des lieux de dialogue, des lieux pour se rencontrer, de la reconnaissance et donc un accès facilité à des représentants, à de l'expertise, l'accès à la gouvernance, à la direction plus générale, là où on parle de stratégie, dans les conseils d'administration par exemple. Et puis il y a aussi une question de moyens. Moyens pour de la proximité, moyens pour accéder justement à de l'expertise, à de la formation, et puis du temps et du nombre. Et puis, deuxièmement, il faut faire connaître ce que le dialogue social produit déjà. C'est ce que j'ai aussi essayé de faire ce matin, de donner des exemples, et j'en suis sûr, vous en avez aussi, là où vous travaillez, si le dialogue social est organisé. Troisièmement, je voudrais citer Jean-Denis Combrexel, qui est l'ancien directeur général du travail, qui l'a été très longtemps, et qui disait, il y a quelques années, « Il faut sortir d'une logique purement juridique, formelle et institutionnelle, trop fréquente dans notre pays, pour donner très concrètement aux acteurs le goût, la volonté et la capacité, non de négocier puisqu'ils le font déjà, mais de faire de la négociation un véritable levier de transformation au service de l'emploi et de la compétitivité des entreprises. » L'enjeu est de faire du dialogue social l'un des rouages de la gouvernance des entreprises, en essayant de rééquilibrer la place des différentes parties prenantes. Le pari devant être de promouvoir des logiques de coopération entre l'ensemble des acteurs, sans pour autant nier la multiplicité et l'hétérogénéité des intérêts qui s'expriment au sein des entreprises. Le dialogue social doit permettre aux représentants des salariés et à ceux-ci, aux salariés, de mieux saisir la stratégie de l'entreprise, en quoi leur travail y tient une place, les perspectives qu'ils peuvent se donner. Il doit aussi être un moyen de prise en compte des difficultés à bien faire son travail et par la confrontation constructive. Jean-Denis Combrexelle a dit un jour lors d'une conférence « Le droit ne décide pas du chemin à emprunter ». Et c'était une invitation au dialogue social. Un autre enjeu pour l'avenir, c'est de reconnaître que pour un certain nombre d'employeurs, le dialogue social est encore trop davantage perçu comme une contrainte et un coût que comme un levier de performance. Alors, c'est à nous de convaincre. Pour les acteurs syndicaux, la concurrence syndicale est l'aspect négatif du pluralisme et elle favorise la surenchère et le refus de la responsabilité. Il est plus risqué de s'engager, de faire confiance, d'accepter un compromis. Plus généralement, il manque un peu de courage de la nuance dans notre société. Et je pense au livre, très beau livre de Jean Birnbaum sur le courage de la nuance. Le dialogue social, enfin, est difficile à mener dans un contexte de transformation qui fragilise la représentation. Il ne faut pas le nier. Au contraire, c'est un problème à prendre à bras-le-corps. A-t-on besoin de représentants ? La question se pose aujourd'hui. On parle de communication horizontale. On passe de l'action collective dans l'entreprise à l'action connective qui se fait hors de l'entreprise. On se pose la question de la force du mouvement. Est-ce que c'est le nombre, l'unité, ou est-ce que c'est la capacité à communiquer un message simple au plus grand nombre, avec un grand risque de simplification ? Il y a une défiance envers les institutions qui a été largement traitée par de nombreux politistes et de sociologues. Je pense aux travaux de Luc Rouban. Il y a une dictature de l'émotion. Le sachant est moins légitime que celui qui exprime une émotion. Et là, je pense aux travaux de Pierre Rosanvallon, qui, dans Les épreuves de la vie, explique en quoi toutes ces émotions sont générées par des épreuves et la promesse d'égalité n'est pas réalisée. Déni de dignité par le mépris, l'humiliation, déni d'égalité des chances, déni des situations particulières qui génèrent de l'injustice, et beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur notre société, des incertitudes qui pèsent dans l'entreprise et qui pèsent au travail. Bien au-delà, on peut aussi parler de toutes ces incertitudes qui sont liées au climat, à la pandémie, on aurait pu aussi longuement parler des effets du Covid-19, et les incertitudes qui pèsent sur le financement et l'avenir de notre propre protection sociale. Autre enjeu d'avenir, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les entreprises prennent conscience que l'intelligence artificielle a trois effets. Le premier effet sur les emplois, parce que ça peut transformer les emplois, ou ça peut amener de nouveaux emplois, ou ça peut faire disparaître des emplois. Et ça s'anticipe par le dialogue social. Un effet sur le travail en lui-même, si on intègre de l'intelligence artificielle dans son travail. Et puis, un problème éthique. À l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises se lancent dans des chartes éthiques de l'intelligence artificielle. De mon point de vue, le dialogue social doit aussi s'emparer de ce sujet et faire en sorte qu'une charte pourrait être le fruit du dialogue social organisé dans l'entreprise. Et enfin, un autre défi, le renouvellement générationnel et la mixité, qui est en lien en fait avec les enjeux précédents, dans la mesure où nous vivons un renouvellement générationnel et à chaque renouvellement générationnel, les anciens disent « c'était mieux avant », les jeunes ont quelques certitudes et c'est par le dialogue social, par l'action collective organisée qu'il peut y avoir de l'intergénérationnel et qu'il peut y avoir des évolutions de société. Alors, je voudrais en revenir au sens et retenez que le dialogue social a à voir avec la performance économique, que le dialogue social a à voir avec le progrès social, que le dialogue social a à voir avec le respect de l'environnement, car avec le dialogue social, nous pouvons nous adapter, être réactifs, parler de productivité, donner du sens et de la motivation au travail, mieux et bien travailler, être respecté et reconnu, se sentir digne de son emploi et au travail, partager la valeur produite plus équitablement, faire évoluer les compétences, vivre ensemble, travailler ensemble. Alors, ce matin, je vous invite à croire au dialogue social et à le développer pour la pratique du droit et de la justice. Je vous remercie.
Thank you.
Merci beaucoup, Olivier, d'avoir déployé la complexité, l'importance du dialogue social, puis de l'avoir fait avec énergie, conviction et clarté. Nous aurons l'occasion d'en discuter avec toi, puisqu'après le culte, nous pourrons nous retrouver pour un verre de l'amitié dans la salle vitrée qui est dans l'entrée du temple, ou autour de la librairie. Mais voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever, à vous associer si vous le souhaitez. À l'expression de ce jour que vous pouvez trouver sur la dernière page du livret de culte. Je crois en Dieu qui est, qui était et qui vient. Je crois notre histoire habitée, soulevée, fécondée par le vivant. Dans sa parole, heureuse nouvelle, dans les signes de l'eau et du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté, il m'attend, il me parle, mystérieux visiteur dont le souffle de vie me fouette le visage. Avec mes frères et mes sœurs, je sais qu'il habite notre aujourd'hui. Je crois avec toutes les femmes, tous les hommes d'hier qui déchiffrèrent sa trace dans l'histoire. Peuple libéré de la servitude et tensé par les prophètes. Peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes. Avec les foules palestiniennes et les apôtres, témoins de sa voix humaine, j'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen, Paul de Tarse, François d'Assise, Martin Luther, Jean XXIII, Martin Luther King et tous les autres. Ils n'ont pas cru en vain. Je crois dans le bruissement du monde, entendre les coups qu'il frappe à la porte, discerner les pas silencieux de celui qui vient. C'est pourquoi, au chevet des malades et des agonisants, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche. Avec les lutteurs, je milite, car il vient, celui-là qui rompt tous les destins et ouvre les chemins, qui désarme toutes les résignations et suscite les responsabilités, et dont le projet fait pâlir tous les programmes. J'attends le vivant, dont la résurrection a nom espérance. Amen. Et nous chantons au cantique 257. Dieu des louanges soit béni, nous chantons les trois strophes.
Thank you.
Prenez place. C'est le moment des annonces pour ce dimanche 19 janvier. D'abord, je voudrais remercier Frédéric Rivoil et Elisabeth Geiger pour ce dialogue de clavecin et d'orgue. Merci à vous. C'est peut-être à refaire une autre fois. Comme je l'ai dit, donc après le culte, il y aura un verre de l'amitié qui pourra nous permettre, enfin qui nous permet de prendre le temps de la rencontre, du dialogue, toutes choses précieuses pour le monde, pour chacun et au foyer de l'âme en particulier. Vous aurez également l'occasion de procurer sur le stand de librairie fourni par la librairie C'est ici, merci à Anthony de le tenir aujourd'hui, des ouvrages de notre intervenant de dimanche dernier. Il manquait beaucoup d'exemplaires de son livre Mes labyrinthes et ils sont arrivés pour aujourd'hui, et puis d'autres ouvrages, d'autres intervenants de ce cycle et puis de théologiens de manière plus générale. Comme chaque dimanche, il y a après le culte et avant le culte, et ce sera le cas dimanche prochain, une collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Et si vous souhaitez y participer, dans l'entrée du temple est affichée en 2 exemplaires la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment. Dans les activités de la semaine, mardi 21... il y a une veille œcuménique organisée avec les amis de Notre-Dame d'Espérance à Notre-Dame d'Espérance. Et il y aura également les amis luthériens de Bon Secours sur le thème « Ensemble dans la barque ». C'est à 19h30. Il y a une affiche dans l'entrée, une autre sur le site du foyer de l'âme. Alors, pour cette veillée qui commence par un petit moment convivial très simple de soupe, fromage et fruits, le foyer de l'âme doit apporter des fruits. Alors, si vous êtes, si vous participez à cette veillée mardi soir, merci de venir me trouver, de me dire ce que vous pouvez apporter, si vous apportez quelque chose, afin que nous puissions un peu nous coordonner. Et puis j'aurai également, si une ou deux personnes acceptent de participer à cette veillée par la lecture de textes, eh bien merci de me le dire également. La lecture des textes bibliques qui réuniront des petits groupes et donc qui permettront de se parler. Voilà, donc ça c'est mardi 21, jeudi 23, 12h30 dans le temple, la pause spirituelle comme tous les jeudis pendant une heure. Samedi 25, ce sera le caté avec les jeunes du caté à 17h dans mon bureau. Et dimanche 26, alors nous accueillerons pour la troisième étape de notre parcours Frédéric Rognon, qui est professeur de philosophie et religion à la faculté de théologie de Strasbourg, qui a aussi une grande expérience de dialogue. Et il interviendra avec le titre « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» une formule biblique de l'évangile de Jean. Et pour accompagner cette interrogation, parvenir au dialogue. Voilà. Il y aura également dimanche 26, là c'est une séance de l'école biblique pour les plus jeunes du foyer de l'âme. Je voudrais vous signaler aussi une date à inscrire d'ores et déjà dans vos agendas. Ce sera l'Assemblée Générale de l'Entraide le dimanche 9 février prochain à midi après le culte, l'Entraide du foyer de l'âme. Je ne crois pas qu'il y ait d'annonce pour l'Entraide d'ailleurs aujourd'hui. Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire que j'aurais oublié? Bon, eh bien alors, si tout est dit, il y a quelque chose à faire, puisque voici maintenant le temps de l'offrande. Antoine, le trésorier, me signale que nous avons retrouvé une collecte, Ah oui, un panier connecté, pardon, pour la collecte. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'espèces, vous pouvez faire votre offrande par l'intermédiaire de votre carte bancaire ou de votre téléphone. Voilà. Mais surtout, quel que soit le moyen, donnez joyeusement et librement. Et c'est ça, une offrande qui plaît à Dieu et qui aide aussi le foyer de l'âme à accomplir sa mission. Je vous invite à nous recueillir, à nous rassembler dans la prière d'intercession. Dieu, du sommet de l'amour, du sommet de la justice et de la paix, tu es venu habiter à jamais notre histoire. Tu es venu afin que tous et toutes aient la vie et l'aient en abondance. Et nous te rendons grâce pour celles et ceux qui en témoignent pour nous et dans le monde. Mais vois comme nous sommes aujourd'hui séparés, répartis sur des sommets et dans des gouffres, des sommets de pouvoir, des gouffres d'oppression, des sommets de connaissance, des gouffres d'ignorance, des sommets de richesse et des gouffres de pauvreté. Vois comme nous sommes ainsi luttant dans d'obscurs ravins de dénuement, d'exclusion, de souffrance. Et pourtant, nous aspirons à une humanité basée sur la coopération plutôt que sur la concurrence, sur la participation plutôt que sur la domination, sur le partage du bien commun plutôt que sur la spéculation, et sur la solidarité plutôt que sur l'égoïsme et le profit personnel. Nous reconnaissons aussi que nous ne sommes pas toujours pour rien dans les injustices que nous dénonçons. Et toi, notre Dieu, sommet du don et du partage, tu as confié à nos mains fragiles la terre si belle avec tant de richesses. Rappelle-nous encore et à nouveau ton rêve d'humanité et de partage. Dieu des solidarités, souffle à nos oreilles des accords basés sur le bien commun, où la personne humaine est au centre du développement. Réveille en chacune et chacun de nous la volonté de bâtir un monde nouveau, un monde transformé par la justice et la liberté dont tu rêves, dont nous rêvons, que tu donnes et que nous recevons. Ainsi rassemblés, nous pouvons dire à voix haute ou dans le cœur la prière que le Christ a donnée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique avant la bénédiction. C'est le numéro 288, « Toujours tu es présent Seigneur » et nous le chantons en entier.
Thank you.
Amis, frères et sœurs, Dieu qui vous crée pour la joie et pour le partage, pour la rencontre et pour la louange, pour la tendresse et pour la lumière, Dieu vous bénit et vous garde à jamais en sa bonté. Amen.